Ne manquez pas le balado « Relève-toi », présenté par le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marsolais reçoit l'ex-patineuse de vitesse et médaillée olympique, Marianne Saint-Gelais.
Mes médailles, je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité, j'ai absolument rien.
Comment ça va? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous. Au 1-866-APPEL. Ensemble, tissons l'espoir.
Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue au balado Sortie de zone, saison 4, épisode 64 de ce mardi 23 mai 2023. Avec nous, les gars de la presse, Simon-Olivier Larange qui est là. Salut, Simon-Olivier.
Salut, comment ça va?
Ça va super bien. Nous avons Alexandre Pratt également. Salut, Alexandre.
Salut, Jérôme.
Et pour le 98.5 FM sur la planète Mars, Stéphane White qui est avec nous. Salut, Stéphane.
Salut les gars, comment ça va?
Ça va super bien, ça va mieux que notre technique parce que présentement, habituellement, Stéphane est dans le coin de Sherbrooke et sur une ligne dans notre station là-bas à Sherbrooke, puis ça fonctionne bien. Puis aujourd'hui, pour une raison qu'on ne connaît pas, ça fonctionne pas. Fait que tu vas faire ça par téléphone et on est bien content que t'aies été patient et t'as pas dit « Ouais, ça fait, je m'en vais, moi je suis plus capable ». Bon, merci Stéphane. OK, hey, débutons avec les Panthers de la Floride qui l'emportent 1-0 face aux Hurricanes de la Caroline qui prennent les devants 3-0 dans cette série-là. Honnêtement, puis je vais commencer avec Stéphane parce qu'il était très patient du côté de Sherbrooke. Stéphane, écoute, les Panthers sont en mission présentement, là.
Oui, moi, je sais pas à peu près. Moi, tu sais, en affaire, sont impressionnants. Mais écoute, la réalité est que Boston, on joue comme. La Floride, on joue comme Boston. Boston avait beaucoup de pression en étant l'équipe, la meilleure équipe de la Ligue. Floride s'en va là, bon, pas de pression. Le même, ils jouent le même tour à Toronto, et sont en train de jouer le même tour à Caroline. C'est quoi le dénominateur commun? C'est que Boston, Toronto, Caroline, c'est des équipes qui sont supposées de gagner, puis tu peux sentir qu'ils jouent avec le bâton serré, tu peux sentir qu'il y a une frustration. Donc, puis là-dedans, ben, la Floride s'amuse.
Clairement, s'amuse, brasse, bouscule, est patiente, parce que Simon-Olivier, honnêtement, les Hurricanes, c'est eux autres qui ont le gros bout du bâton dans les matchs, mais c'est pas eux autres qui gagnent les parties. Là.
Exact, c'est vraiment quand on regarde les statistiques, ça confirme, en fait, quiconque regarde le match le voit, mais après ça, on aime ça toujours se le confirmer 15 fois, en tout cas moi. Puis, je veux dire, hier, les Panthers ont touché à rondelle une fois que ça comptait, ils ont effectivement compté, mais sinon, c'est l'avantage, c'est unilatéralement à l'avantage des Hurricanes, malgré que les Panthers, tu sais, ils ont quand même bloqué 5 tirs dans les deux dernières minutes hier soir, fait qu'il y a clairement eu un resserrement défensif pour aider Bobrovsky, mais c'est notre point suivant, je sais qu'on va y arriver inévitablement, mais l'histoire de la série présentement, c'est Sergei Bobrovsky, et tu sais, je dirais pas qui l'eût cru, parce que Stéphane a parlé de Bobrovsky depuis longtemps, mais on n'était pas nombreux à l'attendre, disons. Moi, je m'attendais pas à ce qu'à ce temps-ci de l'année, on parle de Bobrovsky comme le héros des séries.
C'est quand même pas lui qui a commencé les séries pour son club, en passant. D'après moi, personne même dans son club le savait. Alors là, maintenant, le moment, je me suis gardé de dessert pour la fin. Nous allons parler à Madame Minou du sport, celle qui voit l'avenir, parce que Alexandre qui disait, moi, je suis quasiment parfait dans le dernier balado, dans ses prédictions. Qu'est-ce qui se passe, Alexandre Pratt? Les Hurricanes, vous êtes supposé de battre les Panthers?
Est-ce qu'ils sont éliminés?
Oh! On les a où est-ce qu'on les voulait. Mais non, mais non. Non, mais tu sais, en fait, ce qui est impressionnant de cette série-là, c'est les Hurricanes, je l'ai souvent dit cette saison, c'est l'équipe d'élite de la Ligue nationale en défensive. Ils sont incroyables. Okay? C'est l'équivalent des Oilers version défensive. Et ils jouent leur game. Ils marquent pas beaucoup, là, je veux dire, présentement, les Panthers. C'est pas comme s'ils se faisaient défoncer. Tu sais, c'est un style de jeu qui est différent des Bruins. C'est différent des Maple Leafs. Tu sais, les Hurricanes sont quasiment tout seuls à jouer leur game, là, dans la Ligue nationale. Les Panthers s'adaptent. Puis, tu sais, c'est un petit peu comme un combat de boxe, présentement, où les Panthers, ils encaissent, ils encaissent, ils encaissent. Puis, finalement, ils délivrent le punch final, puis ils gagnent tous les matchs. Parce que, écoute, au niveau des statistiques, les Canes dominent, là, mais je disais, écoute, on parle des buts anticipés. Là. Ça, là, c'est une stat, on a souvent expliqué, mais on va le réexpliquer. Ça tient compte de tous les buts dans l'histoire de la Ligue nationale marqués d'un spot. Là, donc, mettons, à 3 mètres du but, les joueurs marquent 80% des fois, ça donne 0.8 buts. Okay, bon. Alors, depuis le début de la série, les Canes, à force égale, ils auraient dû marquer 11 buts, ils en ont marqué un.
C'est un défenseur.
Un. Donc, ça veut dire que Bobrovsky a arrêté 10 buts de plus qui le devait. Juste pour mettre ça en perspective, les gardiens du Canadien en 82 matchs l'année, ce sont pas rendus à 10 buts. T'sais. Fait que c'est comme juste exceptionnel. Les Canes se font prendre à leur jeu. Ils font tout bien. Les Canes, c'est pas vrai, là. Je veux dire, ils tirent sur le gardien, ils tirent pas à côté, ils tirent sur le gardien, ils gagnent les mises en jeu. Tous les centres des Canes sont en haut de 50% de réussite aux mises en jeu. Ils possèdent la rondelle à 56%, puis malgré tout, ils ont perdu les trois matchs. Je veux dire, crédit aux Panthers d'avoir réussi à trouver la clé, tu sais, qui permet de barrer. De barrer les Hurricanes, parce que pour moi, les Hurricanes, c'est vraiment une top, top, top équipe de la Ligue. Mm-hmm. Pour que les Panthers réussissent à les battre trois matchs de suite, avec quoi? Ils ont cinq buts dans les trois matchs?
C'est six buts total.
Écoute, six buts en trois matchs, puis ils gagnent les trois matchs, j'aurais jamais pensé.
C'est trois buts dans les deux derniers matchs. En saison régulière, si une équipe accorde trois buts en deux matchs, c'est probablement deux victoires.
Hey, juste vous dire, là, OK, Anderson, il y a 95% d'arrêt, Ranta 92%. Normalement, avec un gardien qui a 95% d'arrêt, tu gagnes tous tes matchs. Là,
puis ils ont trouvé le moyen de les interchanger, d'ailleurs. Stéphane White, bon, qu'est-ce qui se passe avec Sergei Bobrovski? C'est quoi? Comment ce gars-là il est rendu un martien? On le sait qu'il était bon, mais là, il a retrouvé vraiment sa touche qui l'a rendu célèbre.
Ben écoute, moi, ce qui m'impressionne de Sergei Bobrovski, c'est premièrement, je retrouve le gars qui a gagné le Vezina avec Columbus. Et comment il était dans ce temps-là, il était beaucoup plus un gardien beaucoup plus agressif qu'il l'était cette saison, beaucoup plus d'instinct qu'il l'était. Donc ça, je retrouve ce gars-là. Puis ça a tout été un très bon athlète, un gars rapide, un gars flexible. Mais là, écoute, qu'est-ce qu'il embarque? C'est sa confiance. Lui, il est arrivé à 3-1. La Floride perdait 3-1 contre les Bruins. Il est arrivé là, lui, pas de pression. Oh, ça a bien été. Là, un petit peu plus confiant. Gagne un autre match, un peu plus confiant. Gagne la série. Oh, mais là, il est en feu. Puis depuis ce temps-là, mais la confiance, ça monte à tous les soirs. Et puis, je le trouve tellement intimidant. Des fois, il me fait penser à Carey Price dans ses meilleures années, comment il est intimidant, comment il peut faire des arrêts hors normes. Et puis maintenant, pour moi, il n'y a aucun... Je sais qu'on parle beaucoup de Matt Tkachuk, mais pour moi, en ce moment, c'est le joueur le plus utile des séries jusqu'à maintenant. Et puis, dans toute la ligue, là, les quatre équipes qui restent. Donc, très impressionnant, mais surtout une confiance qui fait peur à l'adversaire.
Ah, clairement. Écoute, je pense qu'il a trouvé la clé. Oui, tu voulais ajouter, Alexandre?
Ben, non, mais vas-y, puis après ça, j'ajouterai.
Non, mais c'est parce que je voulais parler le fait que les matchs sont tellement serrés, un gardien de but fait tellement la différence. Je vais y revenir, mais rajoute un point sur Bobrovski.
Mais tu sais, écoute, là, il est à 98% d'arrêt. Écoute, son Ferrer, c'est du jamais vu, là. Dans une série, je me souviens pas d'avoir vu un gardien avec des taux d'arrêt aussi importants. Puis tu sais, une affaire importante...
Avec les Blues.
Akira Schmidt à ce point-ci de la série ou contre les...
Oui, t'as pas loin.
Peut-être.
Mais ils ont été éliminés quand même. Mais oui, t'as raison.
Puis tu sais, une affaire intéressante, ben, c'est pas quelqu'un qui a participé tant que ça aux séries. Là, dans ces... Il y a participé, mais pas non plus tout le temps. Mais tu sais, il avait été très bon aussi face au Lightning en 2019. Mais c'est quelqu'un qui, sur la scène internationale, quand les matchs comptaient... Il était très bon. Là. Il a joué pour la Russie, là, par exemple, des championnats du monde, les Jeux olympiques 2013-2014. Il y avait des pourcentages d'arrêt de 95%, ce qu'on voit jamais autrement. Mais c'est quand même quelqu'un qui, sous pression, est capable de performer. Là,
OK, mais je vais aller plus loin. Puis Stéphane, Simon-Olivier, si je veux t'entendre là-dessus. Est-ce que la clé pour les Panthers, c'est juste Bobrovski? Parce que si Bobrovski casse, les Panthers n'ont plus rien?
Bon, en ce moment, mais surtout dans le dernier match, écoute, la Caroline a été clairement la meilleure équipe sur la glace. Bobrovski, il était incroyable. Sauf que, en général, pour donner un petit peu de crédit aussi au reste de l'équipe, on a tous parlé de Matthew Tkachuk, les gros buts qu'il va chercher, mais cette équipe-là dérange. Sam Bennett dérange tout le monde, Matthew Tkachuk dérange tout le monde, Nick Cousin dérange tout le monde, même Ryan Lomberg, qui est tout le temps sourire aux yeux, est quasiment arrogant, Gudas dérange beaucoup l'adversaire. Montour qui a des séries incroyables. Donc, il y a beaucoup d'autres choses, tout qui se passe dans cette équipe-là. Et puis, tu vois que ces gars-là sont en mission. Tu vois que ces gars-là jouent avec beaucoup de plaisir, même un petit peu d'arrogance, comme je disais. Et puis, beaucoup plus pour moi, en ce moment, de papier sablé que les Hurricanes.
Ouais, notre collègue Antoine a dit « ils sont vilains ». J'ai bien aimé le mot « vilain ». Je trouve que c'était à propos avec les Panthers. Bon, OK, il y a 4 des 5 matchs dans les deux finales, dans l'Est et dans l'Ouest, qui se sont terminés en prolongation. Ça, c'est parce que c'est par l'écart d'un but. Selon vous, est-ce que c'est un bon show ou c'est un mauvais show? Là, je parle pas pour le passionné de hockey, je parle pour l'amateur moyen. Est-ce que c'est un bon show, c'est un mauvais show, Simon-Olivier?
Le fait qu'il y ait plusieurs prolongations, je pense que c'est un bon show, parce que ça témoigne justement du fait que c'est des matchs serrés, c'est des matchs excitants. Puis mettons, par exemple, moi, je devais écrire sur le match de vendredi dernier. La prolongation a duré moins de 2 minutes. J'étais extrêmement content. Je trouvais que c'était un bon show. Moi, j'étais satisfait de ça. Je me questionne sur les matchs qui vont aussi loin que justement la 4e période de prolongation. Presque la 5e. On a marqué très tard en 4e période dans le match numéro 1. Je trouve la qualité du spectacle s'en ressent beaucoup rendu là. Puis je comprends. Je pense pas que la tire de barrage serait une solution. Mais je me demande si éventuellement, après X nombre de temps, peut-être après une période de prolongation, est-ce qu'on pourrait pas descendre à 4 contre 4 plutôt?
Mais jamais.
Je trouve que au moins le fait est que ça arrive pas si souvent. Fait que, tu sais, c'est un peu un non problème, tu sais. C'est pas si comme tous les soirs c'était les 2 puis 3 prolongations, mais quand ça arrive, c'est pas un bon match. Puis c'était pas un si vilain but, le but de Ketchuk en 4e prolongation, mais tu sais, les joueurs sont exténués, ça paraît. Okay. Je suis pas un fan de ces longs matchs là.
OK, Alexandre, c'est un bon ou mauvais show qu'on s'en a 4 matchs sur 5 en prolongation?
Ben non, mais c'est excitant. Chaque minute qui passe en prolongation, c'est une minute où il peut avoir un but en or, puis t'es sur le bout de ton divan. Okay,
même pour le gars qui est à Vegas, qui lui a eu son billet à cause du casino qui était, puis il s'en va là vite puis
c'est pas comme ça à Vegas. La fanbase c'est
c'est un jugement de valeur.
Okay, sérieusement,
j'ai
dû voir des centaines de matchs de sport dans ma vie, peu importe le sport. Je me souviens pas d'être parti une seule fois pendant une prolongation en me disant ouais, là, tu sais, c'est pas comme le théâtre, là, dans une pièce de 8 heures où tu fais comme après 2 actes. Ouais, je suis pas
très
trop là.
Très sévère, très sévère.
C'est une blague, Mais je suis jamais parti en prolongation dans aucun sport. C'est excitant. Je veux dire, quand tu regardes la Coupe du monde de soccer, puis tu te rends 30 minutes, puis t'es comme, OK, le prochain but, c'est décisif. Il va peut-être se passer quelque chose. Pour moi, c'est la même chose.
On finit avec les tirs au but, à un moment donné.
Oui, je suis d'accord, mais après 30 minutes, plus après ça, les tirs au but, tu sais, moi, 30 minutes de prolongation au hockey, 40 minutes de prolongation, je peux le prendre. Okay. Au contraire, je trouve ça excitant. C'est le meilleur de ce que le sport peut offrir. Le prochain but gagne. Tout le monde, il y a un enjeu à chaque seconde que tu es sous le jeu. Tu sais, ce qui est plate quand tu regardes une game de hockey, c'est quand c'est 5-1 au mois de février, puis que tu sais que ta troisième période est plate. Ouais, un exemple très, très, très réel. Mais non, moi, j'adore que ça aille en prolongation. Tu sais, puis de là modifier, tu sais, moi, je suis moins en faveur de modifier. Tu sais, ils l'ont fait au baseball, ça a du bon, tu sais, mais dans des matchs très importants.
J'aime pas ça, moi. Le gars qui commence au deuxième but.
Pour des matchs en saison, je trouve ça a du bon sens. Ouais, après ça, est-ce que tu règles la série mondiale, le 7e match là-dessus?
Pas du tout.
J'aurais plus à discuter. Mais pour moi, j'ai pas de problème à ce que les matchs durent longtemps. J'aime voir ça. Puis tu sais, ça me rappelle un truc. Quand le Canadien a gagné la Coupe en 93, sauf erreur, il y avait eu 11 victoires en prolongation. Ouais. Tu sais, avec un bon gardien de but, puis une équipe de grinders, un petit peu, tu sais, avec des attaquants où c'était balancé, ça commence à ressembler un petit peu au Pat.
OK. Il y a une boule qui se crée, puis on devient un mythe. Quand tu sais que la prolongation arrive, tu peux quasiment gagner. Stéphane, de ton côté, c'est un bon ou mauvais show que 4 des 5 matchs des 2 finales dans l'Est et dans l'Ouest se soient terminés en prolongation?
Moi, c'est certain que c'est un bon. Tu sais, comment ça peut être pas bon quand tu es en overtime? Même si tu es en 4e, écoute, je pensais Alex vient de dire ça, là, écoute, quand le match peut se terminer n'importe quand, moi, j'adore ça, puis on change rien. Je veux pas voir de moi, je voudrais pas voir de 5 contre 5, de 4 contre 4 ou de tir de barrage. 5 contre 5, et puis ça durera le temps que ça durera. J'adore ça, puis je pense que c'est un bon show.
Hey Stéphane, dis-moi donc, tes gardiens de but, quand on arrive en prolongation en série de fin de saison, là, tu donnes-tu des consignes, tu dis fais attention aux petits détails, qu'est-ce que tu dis à un gardien de but?
Le moins possible en prolongation, parce que justement, il est dans sa bulle, pas le temps de le déranger avec n'importe quoi, il sait qu'est-ce qu'il a à faire. La seule affaire qu'on fait quand on joue plusieurs périodes de prolongation, comme c'est arrivé à Bobrovsky. Et puis, écoute, c'est lui qui décide quand il pratique entre les matchs, puis c'est lui qui décide s'il a embarqué sa glace, puis c'est lui qui décide OK, je vais embarquer seulement 15 minutes pour me délier le muscle. Tu le déranges le moins possible, je peux te dire ça.
Hey, Stéphane.
Oui,
tu sais, John Cooper, là, qui a vécu là, des longues prolongations, il disait cette semaine, écoute, moi, j'ai vu des gars recevoir des perfusions, je veux dire, de sang après des longues prolongations. Les gars, ils commandaient des pizzas, tu sais, ils mangeaient des barclays. Qu'est-ce que tu... Ça fonctionnait comment? Qu'est-ce que tu as vu là, qui t'a fait comme moi? On est dans une game de... pardon?
Le langage chantier.
T'as des joueurs qui sont obligés de se faire réhydrater de temps en temps, là, puis surtout... avec un soluté là que comme à l'hôpital là que tu le perce les veines avec ça puis on les réhydrate parce que c'est incroyable. Et bon, j'ai vu moi aussi de la pizza, parce qu'il y a souvent de la pizza qui sont disponibles après les matchs, donc ils sont déjà là, les pizzas. Fait que les gars mangent des pizzas, mangent des fruits, mangent des bartendes, boivent beaucoup, beaucoup, beaucoup avec des électrolytes, que ce soit des Gatorade ou ces genres de boissons-là. C'est moderne à faire. Les gars d'équipement alentour et puis les soigneurs, ils roulent en mont juste pour assurer ta propre pour avoir des choses. Moi, j'ai vu un gars comme Nikolai Abibulin, seulement 60 minutes, il a perdu 12 livres
dans
un match à Atlanta. 60 minutes. Imagine-toi, deux matchs et une période, ça n'a aucun bon sens.
Combien d'eau peut boire un gardien? Moi, j'ai déjà lu des histoires sur Jean-Sébastien Giguère qui buvait, tu sais, c'était comme plus qu'une dizaine de Gatorade dans un match. Là. Combien de verres d'eau, il peut boire? Oui.
Ah ouais, je reviens avec Nikolai Abibulin parce que c'était un gros problème de déshydratation qu'il y avait. Juste avant le match, il devait en boire quasiment, je me souviens, il y avait quoi, 6-7 bouteilles sur son banc qu'il buvait. Et entre les périodes, mais c'est certain que tu vas aux toilettes parce que à un moment donné, il faut que ça sorte. Et puis tu bois de l'eau, c'est incroyable, ou des produits Gatorade de choses de même. C'est tellement important à suivre cette chose-là pour les athlètes.
OK. Donc 12 livres pour un match, deux matchs, ça fait 24 livres. Écoute, je serais quasiment à mon poids santé, je serais correct. Je vais aller le gardien de but. Bon. Ceci étant dit, puis ça c'est un mensonge, c'est beaucoup plus que deux matchs que ça me prendrait. Ceci étant dit, Simon, Olivier Larange, on amène un débat. OK? On amène un débat, puis j'ouvre le débat, puis je veux savoir votre point de vue là-dessus. Ça fait au moins deux ou trois fois dans un match qu'on voit un joueur être atteint par un bâton élevé pendant la rencontre, qui n'est pas appelé et qui change la donne. Parce qu'il n'y a pas de pénalité, l'équipe adverse marque, et là, l'entraîneur arrête pas de dire, mais voyons donc, vous avez pas vu le bâton élevé. Est-ce que, selon toi, est-ce qu'on devrait donner le droit à un coach d'avoir un challenge vidéo pour dire, il y a eu bâton élevé, va à la reprise vidéo et appelle une pénalité? Est-ce que ça, on devrait donner ça à l'entraîneur?
100%. Les entraîneurs ont déjà des outils, puis on révise pendant de longues, longues, longues minutes des jeux sans aucune importance pendant la saison, je veux dire, là, sur l'issue du match, des fois, ou sur l'issue de la saison, effectivement, pour une équipe qui est éliminée depuis longtemps, puis on va passer 10 minutes à regarder une image pixelisée en deux frames. Je pense que la Ligue devrait faire ce pas-là supplémentaire parce que c'est des séquences, tu l'as dit, qui peuvent complètement changer l'issue du match, alors que c'est peut-être le dernier match de la saison d'une équipe, alors qu'une équipe pourrait être éliminée puis dire, ben, OK, puis qu'est-ce qu'on fait maintenant? On aurait dû avoir un avantage numérique ou pas. Je pense que oui, on en parlait avant l'enregistrement, je pense que c'est Rod Brind'Amour qui disait dans une entrevue cette semaine que peut-être que 4 arbitres sur la patinoire, c'est trop, peut-être qu'il doit y avoir des arbitres hors glace, peut-être que ceux-ci pourraient être mis à contribution juste quand il y a une espèce d'appel de l'entraîneur. Je pense que si on l'encadre comme il faut pour pas qu'il y ait d'abus, de la même manière que maintenant, quand un entraîneur décide de challenger un but, s'il perd, il y a une punition. Même chose, tu sais, là, l'entraîneur dit, par exemple, il y aurait eu un bâton élevé, qui est quand même une punition qui n'est pas si difficile que ça à avoir, mais qui aurait eu une infraction, de dire, est-ce que je prends la chance d'y aller, je suis assez sûr de mon coup, au point où c'est moi qui est puni si jamais je manque mon coup, je pense que le spectacle serait meilleur et surtout plus équitable.
De ton côté, Alexandre?
Non, moi, je suis contre. Pour moi, c'est une décision de jugement. Puis le hockey n'est pas un sport archi précis. Il y a une grande part de jugement dans l'appel des punitions, avoir retenu, par exemple. Il y a beaucoup de punitions qui sont décidées essentiellement par l'arbitre. Le hockey est fait comme ça. Si on veut changer la nature du hockey, par exemple, mettre des arbitres plus haut, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais ça va prendre un changement radical. Ce qu'on pourrait voir, plutôt que de donner le challenge à l'entraîneur, on pourrait voir quelque chose qui ressemble plus au soccer avec la reprise vidéo. C'est-à-dire, il y a quelqu'un d'indépendant qui était un autre arbitre qui est plus haut. Non, mais qui dit, je pense qu'il y a eu un bâton élevé sur le jeu. L'arbitre, t'arrêtes à la pause, fais l'arbitre, viens visionner, puis regarde s'il y a eu un bâton élevé, puis qu'est-ce que t'en juges.
J'aime beaucoup le point de Simon-Olivier. Ça veut dire que si tu prends une chance et que tu rates, tu peux être puni. Ça, je trouve que ça demeure la responsabilité de l'entraîneur d'y aller avec le challenge, et c'est lui qui assume les conséquences, que ce soit positif ou négatif.
Oui, mais c'est une décision. Essentiellement, ça peut quand même revenir à la décision de jugement. Là,
OK. Stéphane, de ton côté?
Ben moi, je suis d'accord avec Simon Olivier. Moi, j'aimerais ça pour que ce soit révisible. Puis, comme tu dis, si l'entraîneur a tort, mais il est puni, deux minutes. Donc, et la même chose dans les situations inverses, où ce que des joueurs qui sont des bons comédiens, plutôt qu'un bâton qui est moindrement levé, font attendre à semblant d'être touché, ce qui n'est pas le cas des fois. Et puis ça aussi, on pourrait, tu sais, l'arbitre calle une punition, puis le coach dit, ben voyons donc, il l'a jamais atteint. Et puis, ben ça et tout, on pourrait revoir ça. Et puis, c'est pas long, ça c'est noir ou blanc, il a touché ou il a pas touché, c'est pas compliqué. Donc, c'est pas des décisions qui prendraient 15 minutes à prendre, là. Ça prendrait 5 minutes, puis au moins, on aurait les bonnes décisions.
Mm-hmm. Mais en fait, c'est pas noir ou blanc, ça dépend des punitions. Puis je pense qu'il faudrait justement, quand on parle d'encadrer ça, ben ça serait certaines punitions, par exemple, un bâton élevé, par exemple, une rondelle tirée dans la foule, celle que c'est vraiment, que c'est un call facile. Parce qu'après ça, est-ce qu'on commence à faire une demande sur une décision subjective? Est-ce qu'il y a retenu? Est-ce qu'il y a eu... Est-ce qu'il y a accroché? Est-ce qu'il y a trébuché? Parce qu'on s'en sort pas. Mais effectivement,
non,
je pense sur les...
Ben non, ça n'a aucun bon sens. Même quand je parle, c'est noir ou blanc, c'est quand tu as un bâton qui t'atteint au visage.
C'est ça.
Il t'a atteint ou t'as pas atteint.
En même temps, qu'est-ce qu'on ferait avec les coups de patin? T'sais, comme celui de Joseph Veleno en fin de semaine, là, qui a failli arracher.
Quel geste de. Moi, dis le terme de cabochon. Honnêtement, non, hey, ça, c'est rare. Stéphane, honnêtement...
Il n'y a
ça,
même pas eu de punition.
Non, mais j'ai rarement vu ça, un gars donner un coup de patin à la jambe de quelqu'un d'autre. Juste pour mentionner aux gens, si vous ne l'avez pas vu, le Canada qui affrontait la Suisse, Joe Veleno joue pour le Canada, affronte le long de la rampe Niederreiter. On se bat pour la rondelle. Niederreiter a sa jambe gauche devant Veleno qui décide de lui donner un coup de pied sur la patte.
Ben, en fait, c'est comme s'il essayait de couper un gâteau avec un couteau.
Tu comprends que t'as un patin, là. Il était suspendu 5 matchs. T'as-tu déjà vu ça, quelque chose de même, Stéphane, toi?
Je me souviens pas, mais très dangereux. Tellement dangereux, ça n'a aucun bon sens. Quel geste stupide. Écoute, très dangereux, puis la suspension est la bonne.
Ouais, cabochon. Ben, moi, j'ai dit cabochon, mais je réitère, ouais. Cabochon.
Même Hockey Canada publie...
T'as une crampe au cerveau.
Ouais, exact.
Hockey Canada a fait une déclaration après le jugement a été rendu de 5 matchs, puis c'est vraiment la déclaration, l'équipe est consciente du rôle du comité, reconnaissant de la diligence dont il a fait dans la preuve. Tu sais, c'est vraiment, il y a pas... Clairement, Hockey Canada est embarrassé par ça. Il y a même une déclaration de Veleno dans le communiqué qui dit « J'accepte la sanction, je m'excuse pour ce que j'ai fait. »
C'est une arme, un patin, c'est comme si t'avais un bâton de baseball puis t'allais viser les genoux de quelqu'un. Tu sais, je veux dire, oui. Ça n'a pas de bon sens.
Mais imagine, le patin glisse et descend le long de sa cheville.
C'est
souvent, on va voir, il y a des joueurs qui n'ont pas de bas entre la base du patin et la base de la jambière. Puis tu coupes, là. Ça n'a aucun sens.
Je parlais à quelqu'un ce matin qui me disait même Claude Lemieux a jamais fait ça.
Imagine.
Je trouvais que l'image était forte.
OK, on va s'arrêter quelques instants. Retour. On va aller faire un petit tour du côté de Vegas qui allait devant 2-0 contre Dallas. Êtes-vous surpris? Et on se parlait de Kyle Dubas. Dans le dernier balado, j'ai l'impression que tout le monde disait « Ah non, oublie ça, Dubas, il reste à Toronto. » Ça a l'air qu'on n'est pas devin. On fait une courte pause.
Ne manquez pas le balado « Relève-toi », présenté par le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marsolais reçoit l'ex-patineuse de vitesse et médaillée olympique, Marianne Saint-Gelais.
Mes médailles, je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité, j'ai absolument rien.
Comment ça va? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous. Au 1-866-APPEL. Ensemble, tissons l'espoir.
On est de retour au balado Sortie de zone, saison 4, épisode 64. Savez-vous quoi, Alexandre et Simon-Olivier, il a atterri de la planète Mars. Stéphane White est avec nous. Salut Stéphane!
Je suis de retour à Sherbrooke.
Et voilà!
C'est extraordinaire.
Beau voyage sur la planète Mars. Parlons des Golden Knights de Vegas qui ont pris les devants 2-0. Et ça, on va faire ça très rapidement. C'est-tu moi, ben non, il est pas sexy, cette série-là?
Moi j'ai regardé seulement le premier match, c'est un très bon match.
C'est
parce que les Stars de Dallas, c'est pas une équipe sexy, puis ils ont des joueurs exceptionnels. Tu sais, Jason Robertson, Rupe Hintz, qui a des séries exceptionnelles. Mais effectivement, c'est pas des clubs sexy, mais tu sais, moi je suis surpris que Vegas soit en avance parce que j'ai dit que Vegas gagnerait la série. Fait que moi jusqu'ici, quand je dis qu'une équipe va gagner, c'est funérailles prochaines. Fait que je comprends pas ce qui se passe, je suis complètement bouleversé. Mais c'est pas sexy, puis surtout ça joue plus tard. Fait que c'est
mais plus tard et en plus le dernier match, on le fait à 3 heures d'après-midi, heure de l'Est, midi, heure de Vegas.
c'est un peu c'est le constat qu'on avait fait au tour précédent, comme quoi c'est pas très haut dans les priorités les réseaux américains présentement, les séries éliminatoires. C'est vraiment ça, un match à Vegas à midi, je comprends pas sur la côte ouest pour qui c'est attrayant, mais pour les gens de Dallas où c'est une heure plus tard, c'est pas très impressionnant. Mais non, moi je trouve que c'est une bonne série. Je m'attends à voir les Stars rebondir, parce que mais je suis impressionné par les Knights. Vraiment, je trouve que la profondeur, moi je le croyais pas, que la profondeur leur il reste si bien que ça, c'est juste pas, je m'excuse extrêmement mal, c'est effrayant, là. Mais c'est ça, que leurs joueurs, de profondeur serait si efficace, ils m'impressionnent.
OK. Stéphane, un match à midi, honnêtement, là, t'as beau dire, OK, c'est des professionnels dans la Ligue nationale. Là, t'es en finale de l'Ouest, tu joues un match à midi. C'est-tu moi? Ben non, ça n'a pas de sens, ça.
Ben, ça n'a pas de sens pour les amateurs, mais pour les joueurs, ils adorent ça.
Pour vrai?
Ils adorent ça. Tu te lèves le matin, tu t'en vas à l'aréna, t'as un brunch, tu peux bruncher ou tu peux dîner. Et puis après ça, tu t'habilles puis on joue. Fait que c'est pas les longues journées, ce que t'as des meetings le matin, t'as des fois t'embarques sur la glace le matin, après ça, tu t'en vas te coucher, tu dînes, tu t'en vas te coucher, tu reviens à l'aréna. C'est des longues journées, ça. Mais les joueurs ont tout le temps adoré ces matchs-là. Parce que tu te lèves, t'en vas à l'aréna, tu joues, tu reviens. Et puis sauf que je me souviens, moi, à Chicago, on avait beaucoup de matchs à midi parce qu'on a le réseau NBC, c'était pour eux, c'était un bon temps pour le dimanche après-midi. Donc, la seule affaire, mais on parle de l'intérêt de cette série-là. C'est quatre marchés assez ordinaires pour la Ligue nationale. Donc, de là, qu'il n'y a pas un super intérêt. Sauf que ça n'empêche pas que moi, je suis d'accord, moi aussi, je trouve que c'est une bonne série, deux bonnes équipes. Moi, ce qui m'impressionne de Vegas, moi, vous dire, là, c'est Mark Stone. Quel leader. C'est incontestablement le leader de cette équipe-là. Les joueurs le suivent. Et puis, Mark Stone a même entraîné un gars que j'ai jamais été un fan de lui. Jack Eichel, qui joue du bon hockey.
Il est très, très bon.
Et puis, il m'impressionne. Les deux défenseurs numéro un, Pietrangelo et Shea Theodore, impressionnant. Adam Neal qui fait le travail. Donc, Jonathan Marchessault qui va chercher les gros buts. Donc, cette équipe-là là, roule très bien, mais, c'est 2-0, mais Dallas s'en vient chez eux. Ce soir, ça va être tout un match. J'ai très hâte d'écouter le troisième match.
OK, moi, je croyais pas que Jack Eichel était pour élever son jeu. Pour avoir un jeu de série de fin de saison, je suis surpris de ça. Et je le félicite, parce que si tu veux gagner, t'as pas le choix de jouer de cette façon-là, et on le voit dans cette série-là. On va se parler de Kyle Dubas maintenant, si vous voulez bien. Kyle Dubas, lors du dernier balado, on se posait la question, sera-t-il de retour? Et juste pour vous résumer ce qu'on a dit, c'est que tout le monde disait ici, en studio, et Antoine disait, bah, écoutez, dans le timing, c'est trop avancé, il faut qu'au 1er juillet, tu reparles avec Matthew, j'ai le repêchage qui arrive, et là, coup de théâtre, je suis pas ta clash. On apprend que Dubas et les Leafs de Toronto, c'est terminé. Et là, ça va plus loin, parce que là, Dubas vient de publier justement aujourd'hui un communiqué, parce que on sous-entend qu'il y aurait peut-être un peu de bisbille entre lui et Shanahan. Shanahan aurait un peu interdit à Dubas de faire quelques transactions. Et là, Dubas, puis j'y vais, là, je le cite comme ça, dit « Je veux pas commenter, je veux pas rajouter d'huile sur le feu dans cette conversation. » Simon-Olivier, ça ressemble un petit peu à ça. Je sais pas si tu l'as sous les yeux.
Je suis en train de le lire là, fait que c'est je commence à le lire.
En temps réel, bon mot. Alors, on rejoindra tantôt en temps réel, Simon, lire là-dessus. Vas-y, Alexandre, tu voulais parler.
Ben, je pense que quand on prédisait qui était pour revenir, je pense que Kyle Dubas pensait aussi qu'il était pour revenir. T'sais, son plan, c'était pas de quitter les Leafs, de ce que je comprends. De ce qu'on a vu, lu, entendu depuis une semaine, Shanahan désirait que Dubas ne commente pas la défaite des Leafs immédiatement après la rencontre. Dubas n'a pas dit grand-chose, mais il a juste dit « je vais prendre le temps d'en discuter avec ma famille, puis de voir quelles seront mes options plus tard ». Ce que Shanahan n'aurait pas apprécié. T'sais, clairement, il a l'air d'avoir quand même une petite guerre d'égo là-dedans. Là. Il s'est passé quelque chose où quelqu'un n'a pas flatté la bonne personne. Dubas n'a pas flatté Shanahan dans le bon sens du poil dans cette histoire-là. Déjà, tu devines que il y avait beaucoup de pression, les nerfs étaient à cran, le debriefing n'a pas dû bien se passer, et que là, Shannon, voyant que Dubus aurait pu commenter, même si c'était vraiment, à mon avis, extrêmement superficiel, là, les fils se sont touchés, puis il a fait comme, OK, I'm the boss, puis ça va se passer comme ça. T'sais, je prends la décision, c'est fini, Dubus. Ça ressemble à ça. T'sais, puis là, tu lis Dubus ce matin qui dit, regarde, moi, je vais m'élever au-dessus de ça, puis je ne commenterai pas. T'sais, il joue la position... Ben... posé là, ce matin.
Alors, Simon Olivier a terminé sa lecture. Ouais,
c'est ça, non, mais Dubus se pose comme la personne posée dans ce débat-là pour l'instant. Est-ce qu'il n'est pas une mauvaise...
Il plante un peu Shannon en disant ben, ça.
C'est
non?
ça, il dit. J'ai senti que j'avais besoin de prendre du temps pour évaluer ça ouais. et le club a décidé, comme c'est leur droit, ouais. de prendre une autre direction. Tu sais, il commente pas, mais il commente.
Exactement. D'accord, mais c'est très habile. Tu sais, il est pas en chicane. C'est-à-dire, si tu veux avoir un autre employeur dans la Ligue, c'est une sortie qui est quand même élégante. Je veux dire, tu pars pas en mauvais terme alors que Shannon laisse entendre que ouais, il y avait peut-être eu un peu de chicane. Là,
j'étais quand même si c'était pas une sortie explosive au bilan des Leafs, j'étais surpris que Dubus parle d'un gars qui a un peu que la balle était dans son camp. Ouais. Moi, c'était vraiment un ton qui me surprenait. J'étais là, ah, OK. Puis même les chroniqueurs de Toronto, c'est ça un peu ce qui semblait ressortir dans les jours suivants. C'est OK, la balle est dans le camp de Dubus. Puis je comprenais pas vraiment de dire... De quelle manière, dans la mesure où, ben oui, son équipe a passé le premier tour, mais l'équipe que tu as bâtie vient de se faire torcher au deuxième tour par un club de huitième place. Puis là, on les voit les qualités des Panthers, on le comprend. Là. Je dis pas que les Panthers méritaient pas cette série-là, mais tu sais, ils ont passé un premier tour, puis ils ont gagné un autre match, pas quatre. Fait que je pense que les changements étaient un peu inévitables. Fait que j'étais assez surpris qu'un DG, sans contrat, dise « Ah, ben je vais penser à ça, voir si ça me tente de revenir. » J'étais là « Ben, c'est à toi de décider ça. »
Moi, j'étais un peu surpris que Shannon laisse présager qu'il revenait sans jamais poser de questions.
Mais moi, ça me fait penser à une autre histoire, puis je pense que la vérité, on va la connaître quand il y aura un livre sur cette histoire-là qui va sortir. T'sais, sur l'histoire, je parle de Shannon puis de Dubus, mais il y a quelques années, Theo Epstein, qui était le directeur général extrêmement brillant des Red Sox de Boston, un soir d'Halloween, c'était déguisé en gorille pour quitter le bureau des Red Sox. Puis il était parti sur un coup de tête. Puis là, moi, je m'en vais, je veux me dissocier du baseball. Je m'en vais faire de l'humanitaire avec mon frère au Costa Rica. Puis tu sais, t'as l'impression soit qu'il était en burn-out, soit qu'il venait de découvrir l'épiphanie. Puis là, genre, 4 mois après, il retrouvait une job ailleurs, tu sais.
Avec les Cubs, exactement. Et on a gagné.
Non, mais là, tu regardes ça, puis tu sais, sur le coup, moi, je me rappelle d'avoir été extrêmement choqué. Il avait gagné la saison d'avant, tu sais, bon. Mm-hmm. Puis, en fait, ce que ça a révélé sur le tas, c'est, à un moment donné, Epstein pensait qu'il était plus compétent que son boss, Lucchino, tu sais, puis qu'il valait plus que son propre boss, puis il y a eu une chicane d'ego à l'interne là-dessus, puis ça jouait à travers des columnistes du Boston Globe, tu sais, où chacun avait comme ses préférés, puis coulait de l'information contre l'autre. J'ai le feeling que ça va ressembler beaucoup à ça une fois que toute l'histoire va être connue, que peut-être que Dubus, à un moment donné, trouvait que, genre, il valait plus que Shannon pour l'équipe.
Moi, je dois dire, de ce dossier-là qui me fascine, là, vraiment, je trouve ça... En fait, les Leafs de Toronto, je les trouve fascinants. Je suis très curieux de savoir ça va être qui le remplaçant, parce que Shannon a quand même dit qu'il voulait un directeur général qui a de l'expérience, ce qui laisse pas beaucoup de candidats. Et je regardais la liste des candidats potentiels, donc c'est-à-dire les directeurs généraux actuels qui sont disponibles et qui sont d'anciens DG. C'est pas une liste extrêmement...
Ça serait le fun, Ron Extall, non?
Ron Extall qui vient de se faire sortir.
Là, ça serait quelque chose à Toronto.
C'est pas des farces. Je pense que Marc Bergevin est présentement l'ex-DG disponible qui est le plus crédible pour les Leafs de Toronto ou pour n'importe quelle équipe. Je regarde, si le critère, c'est d'avoir un DG expérimenté, et là-là...
Non, mais est-ce qu'il cadre Toronto, Marc Bergevin?
Je dis pas que les Leafs ont embauché Toronto. Je disais que je regarde la liste des DG. Il y en a qui ont des très Jim Benning et Ron Extall, des gars qui se sont fait sortir, qui ont laissé des dommages pour des années à leur franchise.
Il y a des Brad Treveling qui veulent parler. Il y a un bon candidat, là, Jason Botterill, qui fait tout un job ici, assistant à Seattle, GM à Buffalo et puis qui a une bonne réputation dans la ligue. Mais pour venir à Carl Dubus, moi, je pense que Shanahan a pris la bonne décision après la conférence de presse, parce que quand tu vois ton GM qui dit « Ah, faut que j'y réfléchisse, ah, je suis pas sûr, c'est beaucoup de pression, ma famille a souffert, tout ça. » Ça, c'est le signe, là. C'est le signe que tu dis, OK, je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Et puis, je pense qu'il a pris la bonne décision là-dessus. Et puis, je suis d'accord, moi, Kyle Dubus qui agit comme si c'était à lui à décider. Il a quand même gagné seulement une série en 5 ans. Donc, je pense qu'ils ont pris la bonne décision. Et puis, on peut le voir venir un petit peu. Les autres années, Shanahan et Kyle Dubas étaient tout le temps assis ensemble dans la, sur la galerie de presse. Tout le temps. Cette année, jamais. Jamais une fois, ils avaient ensemble. Fait que des fois, tu dis, oh, c'est quoi qui se passe? Ils sont-ils éloignés un peu? Mais ça pour dire que je pense que c'est la bonne décision parce que après la conférence de presse de lundi passé, si j'aurais été Shanahan, j'aurais fait la même chose.
OK. Attends, Stéphane, je continue avec toi. Si Joel Quenneville va parler à Bettman pour peut-être faire un retour dans la Ligue nationale, est-ce que Stan Bowman pourrait être l'homme des Leafs de Toronto?
Pourquoi pas? Pourquoi pas, exactement. Si un gars comme Joel a son pardon, entre guillemets, pourquoi pas Stan aussi? Et puis Stan, écoute, il a prouvé qu'il peut faire le travail là, dans un gros marché en plus. Stan, écoute, c'est un des bons gars d'hockey que j'ai rencontré dans ma vie.
On m'a dit que là, il faisait du bénévolat dans la fondation de Sheldon Kennedy présentement. Je sais pas si c'est juste pour redorer son blason, je sais pas si c'est pour réintégrer...
Non, c'est genre de gars qui est Stan Bowman. Okay. Un gars tellement humain qui aide tout le monde. Et puis ça, je crois pas qu'il fait ça. Je crois qu'il le fait pour les bonnes raisons.
Est-ce que Toronto, puis je pose là, je parlerai pas à toi, Stéphane, je demandais à Alexandre, est-ce que Toronto pourrait aller avec un gars comme Bowman à Toronto?
Moi, je pense que
avec
non.
Les journalistes qui pourraient poser des questions tout le temps.
C'est la même chose que pour Marc Bergevin tantôt. T'sais, Marc Bergevin, je pense qu'il trouvait ça difficile d'avoir ses décisions être remises en question à Montréal. Je pense que la pression médiatique le pesait beaucoup.
Un Frenchie à Toronto.
Non, mais je pense. Au-delà de ça, je pense que la pression médiatique, ça pesait beaucoup sur lui, surtout en 2018, où il s'est comme plus isolé. Écoute, Toronto. Si on trouve que c'est intense, à Montréal, la pression, Toronto, c'est écœurant. Là. C'est comme dans une autre stratosphère. Même chose pour Bowman, l'accueil qu'il recevrait à Toronto, où il y a des journalistes qui sont vraiment, des chroniqueurs qui sont vraiment beaucoup plus...
Insistant, vorace
qu'à Montréal. Il partirait, il n'y aurait pas trois prises, mais il y aurait deux et demi.
Non, mais le dossier Kyle Beach reviendrait à la première conférence de presse.
Ben non, mais avec raison. Même à Montréal, ça serait le cas. Mais à Toronto, en plus, écoute, ça serait limite insupportable pour lui. Là.
J'enlève rien à ses qualités de hockey, Stéphane. Je veux dire que le dossier reviendrait en plein visage. C'est sûr.
Mais tu règles ça en partant. Il doit avoir une façon de régler ça en partant. Puis il y aurait... D'éclaircir tout ça.
C'est une bataille au racabessique, je pense.
Ah, c'est clair que, écoute, c'est une maudite affaire. Là.
Hey, c'est une ville, quand même, qui a des hauts critères, je dirais, là, par rapport à la morale. Le maire de Toronto qui a été forcé de démissionner parce qu'il y a eu une affaire extra-conjugale. Là. Mm. Juste mettre en perspective certaines choses.
Il y en avait un autre qui fumait du crack à un moment donné.
C'est drôle comment c'est fait.
Hein?
Non, mais ce que je veux dire, écoute, là, c'est pas une ville facile dans laquelle vivre dans la controverse. On va mettre ça comme ça.
OK, Calgary maintenant qui confirme l'embauche de Craig Conroy qui, c'est un choix logique, je pense. Tout le monde l'avait vu venir, t'es assistant DG. Mais là, c'est quelque chose qui est arrivé que je comprends pas et encore une fois, je me tourne du côté de l'intelligence même, de l'éminence grise du balado Simon-Olivier Lorange. Dave Nonis comme vice-président opération hockey et adjoint DG. Fait que là, t'es le boss pis t'es l'adjoint. Je sais pas si c'est une explication, peux-tu m'éclairer?
Quelqu'un qui avait encore des questions sur qu'est-ce que ça veut dire les titres dans la Ligue nationale, ben là, toutes nos réponses sont enfin arrivées aujourd'hui, rien. Parce que dans la plupart, la grande majorité des équipes, le vice-président ou le président des opérations hockey, c'est le boss du DG. Alors à Calgary, le vice-président senior des opérations hockey, c'est l'adjoint du DG. Et il y a un autre, Brad Pascal, qui a été signé lui aussi nommé assistant au directeur général et vice-président, mais pas senior. Fait que c'est, grosso modo, Craig Conroy, c'est le grand boss à Calgary. Il ne nomme pas comme ça, mais c'est lui le président des opérations hockey. Ça devient vraiment lui l'homme de confiance des propriétaires. Et effectivement, tu l'as souligné, c'est un joueur qui a donné beaucoup aux Flames. C'est l'ancien capitaine des Flames. C'est lui qui était là en finale de la Coupe en 2004. Il est avec les Flames depuis sa retraite, depuis 2010. Il est assistant, il était d'abord conseiller au DG, ensuite assistant directeur général depuis 14-15. Il connaît l'équipe de fond en comble. Et il y a un beau défi devant lui parce que effectivement la situation contractuelle à Calgary, c'est très difficile.
Faut qu'il amène un coach en plus.
Faut qu'il trouve un coach. Mais oui, effectivement, c'est quelqu'un qui venait de l'organisation. Je pense que c'est un bon candidat. Puis c'est le fun d'avoir un nouveau DG aussi, je trouve, c'est sûr que lui, il était là depuis longtemps avec les Flames. Puis c'est un joueur dans la fin quarantaine. Je sais pas exactement quel âge a Craig Conroy.
Ouais,
il a 51, dans la jeune cinquantaine. Mais tu sais, pour les DG, d'avoir du sang neuf, je trouve que c'est intéressant de pas toujours ramener les mêmes gens, toujours juste
juste dans des chaises interchangeables parce que là, les équipes qui ont des postes ouverts présentement pour les entraîneurs et les directeurs généraux, c'est toujours les mêmes noms qu'on entend. Mm-hmm. Certains avec, je veux dire, il y en a, c'est normal. Il y a des cycles de carrière. Puis, tu sais, je parlais de Bergevin tantôt. Marc Bergevin, selon moi, va redevenir DG dans la Ligue nationale. Je veux dire, il est dans la fleur de l'âge pour ça. Puis il y a quand même des faits d'armes. Mais je suis content de voir Conroy, cette personnalité-là, devenir DG, rejoindre ce cercle-là.
Puis est-ce qu'il pourrait amener un nouveau coach aussi, mais un entraîneur avec pas d'expérience à la Ligue nationale, un ancien coéquipier, par exemple.
Un genre d'Eguin-là, mettons.
Genre d'Eguin-là. Non, mais à faire un Martin Saint-Louis.
Mais le nom d'Eguin-là est évoqué aujourd'hui, mais ouais. Je serais surpris comme entraîneur. Moi, je me serais attendu à ce qu'il soit justement conseiller ou je ne sais quoi. Je ne sais pas lui qu'est-ce qu'il fait de sa vie, Jérôme Eguin-là, aujourd'hui, mais c'était pas ce qui était dans l'air, en tout cas.
Mais si tu veux apporter une direction à ton organisation, je pense que tu fais comme le Canadien, ouais. C'est que ton capitaine, en fait, il est en arrière du banc. Ouais. C'est comme ça que ça marche. Je sais pas, Stéphane, qu'est-ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que c'est la direction qu'on dit. Voici comment on veut marcher, voici le coach et voici comment tout le monde pense. Tout le monde va penser de cette façon-là. Qu'est-ce que tu dis de ça, toi?
Ouais, écoute, je suis d'accord avec ça. Premièrement, pour Conroy, je pense que c'est une très bonne décision. Il a fait ses classes. Un gars qui a fait ses classes, mais en plus, il est dans ta cour. Et puis, il a été ton capitaine. Donc, il avait toutes les qualités. Et c'est un gars qu'on entend les commentaires de tout le monde dans la Ligue nationale. Il a une bonne opinion. Tout le monde a une bonne opinion par rapport à Craig Conroy. Et puis, autre chose. Écoute, c'est certain qu'il y a des noms qui circulent déjà. J'ai vu Kurt Muller, qui est l'assistant, qui est là, son nom circule. Andrew Brunette, qui est quand même le coach de l'année passée dans la Ligue, qui est revenu assistant cette saison avec New Jersey, qui ont fait toute une saison. Et puis, on a même parlé de peut-être éventuellement un gars comme Joel Canville. Oui, c'est pas la nouvelle vague, mais Joel a tout le temps été bon avec les jeunes. Tout le temps, il l'a prouvé à Chicago, il l'a prouvé en Floride et il a fait marcher un dénommé Huberdeau, pas à peu près.
Effectivement, ça peut être un bon point. Quand tu fais marcher, c'est écoute, c'est pas banal ce que tu dis, Stéphane, là. Quand ton ancien coach a fait Huberdeau, ce qui est devenu dans la Ligue nationale et que tu as une possibilité peut-être d'amener ce coach-là, écoute, quand tu es propriétaire de l'équipe, tu dis, garde, qui l'a fait marcher, on va trouver quelqu'un qui l'a fait marcher,
t'sais. Mais c'est une équipe qui a beaucoup de talent individuel, ouais.
Mais ce club-là est supposé de gagner. Non, mais... honnêtement, si Mark Strom garde bien les buts, je pense que ce club-là. Ils font play-off,
ben,
c'est sûr.
Mais c'est pas juste ça. Ben, oui. Huberdeau a fait 60 points de moins qu'à saison dernière.
Clairement, même sans ça, si Mark Strom garde les buts,
non, ils... exact. Si Mark Strom est juste correct, là, ils font les séries.
Mais, ils ont
Que Huberdeau ait une saison difficile.
Mais à mon avis, ils ont besoin d'un motivateur. C'est ça qu'ils ont le plus de besoin. Ils ont besoin de redonner aux gars le goût de jouer au hockey. Tu sais, Huberdeau, il l'a dit à la fin de l'année, là, il y a des moments où c'était tough, là, je veux dire, de se motiver avec Sutter. T'sais, ils ont besoin de quelqu'un qui va rendre les joueurs heureux, un genre de Jacques Demers, peut-être plus tactique, là, mais t'sais, une personnalité qui est comme empathique envers les joueurs, même sympathique envers les joueurs. Je pense que les Flames pourraient bénéficier d'un changement de ton radical par rapport à ce qu'on a vu les dernières années.
Est-ce que Canville est comme ça, Stéphane?
Les gars l'adorent. Tu sais, quand on dit un player's coach, là, ça, c'est le plus bel exemple. C'est le genre de gars à Chicago, ils l'ont adoré. On trouvait ça très difficile quand il est parti. Et puis, il faisait tout un travail, tout en Floride. Et puis, écoute.
C'est intéressant parce que Muller aussi est un player's coach, hein, Stéphane?
Oui, mais plus Joel encore. Joel, il a joué longtemps dans la Ligue. Hein. C'est un des rares joueurs qui a joué en affaire comme 400 matchs et 1000 matchs comme coach et 1000 matchs comme joueur avec Jacques Lemaire, tout ça. Puis il sait qu'est-ce que les joueurs aiment, puis il sait qu'est-ce que les joueurs aiment pas. Il aime pas avoir le coach tout le temps dans les jambes à tous les jours. Il lui donne les espaces. Il rencontre pas, il fait pas des meetings pour faire des meetings. Il prépare un meeting à propos du meeting. Et puis,
ça compte, ça. C'est important,
un meeting
ça.
À propos
donne,
du
meeting. Il lui donne tellement d'espace.
Tu serais surpris.
Ah, c'est incroyable. On fait un meeting pour n'importe quoi. Mais tu sais, Joel, là, il laisse vivre ses joueurs. Puis quand il rencontre, c'est rare, mais il faut qu'il y ait quelque chose de spécial. Donc, les joueurs adoraient jouer avec Joel. Puis Joel, c'est un gars qui aime avoir du fun à l'extérieur de l'Atlas. Les joueurs avaient du fun avec Joel à l'extérieur de l'Atlas. Donc, tu sais, quand on parle, des fois, on a la perception que Joel Canville, c'est un old school. Pas sûr, mais la façon qu'il agit avec les jeunes, il n'est pas old school. Pas une minute.
Ouais, mais c'est même pas une jeune équipe, les Flames, tu l'as dit. C'est une vieille équipe de la Ligue, par ailleurs.
Et Stéphane, juste à dire, tu viens d'envoyer une balle courbe à Simon Olivier qui fait, Joel Canville, ah oui, avec les Whalers d'Hartford, entre autres.
Exactement, je constate qu'il a fait le voyage, il a accompagné les Rockies du Colorado quand ils ont déménagé au New Jersey en 83. Je prends des choses.
Mais tu sais, une affaire plutôt importante sur les Flames, on l'a souvent dit, on avait l'impression que cette saison, ils jouaient un peu, sur les talons. Ils avaient peur de commettre des erreurs. Ça gèle des athlètes. La peur de commettre qu'une erreur fait en sorte que tu vas jouer plus conservateur. T'sais, ils ont besoin du contraire. Ils ont besoin d'un coach qui leur dit
complètement
comme,
le contraire
des risques.
Oui, complètement le contraire de Montréal où ils n'avaient pas peur de faire des erreurs.
Exactement. Exactement. T'sais, puis c'est ce qui fait que tu peux avoir des succès.
Mon Dieu, ça fait combien de semaines qu'on n'a pas entendu le mot Canadien de Montréal le balado sorti d'onde? Savez-vous quoi? On va faire une pause. Puis tant qu'à être là, on va en parler du Canadien au retour. Restez là.
Ne manquez pas le balado « Relève-toi », présenté par le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marsolais reçoit l'ex-patineuse de vitesse et médaillée olympique, Marianne Saint-Gelais.
Mes médailles, je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité, j'ai absolument rien.
Comment ça va? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous. Au 1-866-APPEL. Ensemble, tissons l'espoir.
On est de retour au balado Sortie de zone, saison 4, épisode 64. Nous avons Alexandre Pratt, Simon-Olivier Lorange. Simon-Olivier Lapresse.
Ouais, wow, on fait pas ça. Non.
T'es un gars, je sais que t'as ton travail tatoué sur le cœur. Ouais, Simon-Olivier Lorange qui est avec nous et Stéphane White. Mais ici, on se l'est dit, on va se parler un petit peu du Canadien parce que vous savez que c'est le championnat du monde qui se déroule présentement. On a fait un mini survol tantôt en parlant de Joe Veleno en disant que c'est un geste inexplicable qu'il a commis sur Nino Niederreiter. Il a été suspendu pour le reste du championnat mondial. Mais Samuel Montembeault est sur place, gardien de but chez les Canadiens de Montréal. Le collègue Jean-François Chaumont du journal a eu la chance de discuter avec. Et dans le cas de Montembeault, aimerait bien une prolongation de contrat. Est-ce qu'il est trop vite en affaires? Je commence avec Simon-Olivier. Es-tu trop vite?
Pas du tout. Montembeault, moi, je pense qu'il est parfaitement en droit de demander ça, de s'attendre à ça, étant donné tout ce qu'il a apporté aux Canadiens dans la dernière saison, c'est-à-dire une présence solide pour plusieurs matchs. Il n'a pas été excellent à tous les matchs, mais il a quand même été le meilleur gardien du Canadien l'an dernier. Depuis deux ans, il est en train de des situations excessivement difficiles. Et je veux dire, je pense que c'est un bon soldat, il se plaint pas, il fait son travail. Après ça, je sais pas c'est quoi l'évaluation que le Canadien en fait pour un poste à long terme avec le Canadien. Est-ce qu'ils veulent s'engager avec lui pour longtemps? Mais je veux dire, je pense pas que du tout c'est exagéré de parler dans ces termes-là, non.
OK, parfait. Donc, Alexandre? Tu gardes une petite gêne, toi?
Non, mais je veux dire, tout le monde aimerait une prolongation de contrat, là. Franchement, c'est
j'en veux aussi.
C'est inévitable. Je suis pas sûr que c'est le bon temps pour lui de le faire, dans le sens où s'il le fait présentement, probablement que le Canadien va l'offrir un contrat de deuxième gardien, non pas de premier gardien, alors qu'il aurait la chance de prouver dans la prochaine année, t'sais, s'il y a une excellente saison la prochaine année, mettons qu'il est dans le top 10 ou 12 de la Ligue, là, il serait peut-être en mesure de se négocier, t'sais, peut-être 1-2 millions de plus par saison. T'sais, donc, il faut, à mon avis... Si j'étais son agent, peut-être que je lui conseillerais de miser sur lui, puis le fait d'avoir une meilleure saison, puis de négocier plus tard ton contrat plutôt que de le faire maintenant, puis de peut-être avoir un peu moins.
Alexandre, est-ce que tu es en train de me dire que tu vois Samuel Montembeault comme étant un gardien de but de 3 millions de dollars par saison?
Ben, tu sais, si dans le top 12 de la Ligue ou top 15 de la Ligue l'année prochaine, ben oui, okay. C'est ce que gagne un gardien dans le top 15 de la Ligue.
Stéphane White, t'en penses quoi, toi?
Ben, il y a deux face à ça. Si je suis Samuel Montembeault, peut-être que moi aussi j'attendrais. Si tu as confiance en toi, tu dis j'attendrai un petit peu parce qu'il peut avoir plus que qu'est-ce que le Canadien peut y offrir. Si je suis Canadien, moi, ils ont le droit d'y offrir un nouveau contrat à partir du 1er juillet. Ça y a rien qui presse, même si ça ira à la fin de l'été ou au début de la saison, c'est pas grave. Mais j'y offrirai un contrat avant le début de la saison si possible parce qu'en ce moment, on peut l'avoir pour un très bon marché. À 2 puis 3 ans, certainement. On sait que Samuel, j'ai comme l'impression qu'il recherche plus la sécurité que le gros contrat. Donc, c'est un gars qui pourrait facilement avoir un 2.5, là, facilement, parce que je le compare à un gars comme Kapo Kakonen, qui a 26 ans, qui a le même nombre de joueurs de parties de jouer dans la Ligue nationale. Il gagne 2 750 000. Karel Svejmelka, contre qui il jouait ce matin, 26 ans aussi, 102 matchs. Le même nombre de matchs de jouer que Samuel Montembeault dans la Ligue nationale, 2 725 000. Donc, en ce moment, il vaut ça. Puis s'il veut risquer sur lui, il peut peut-être avoir plus, 0.5.
C'est avantage. Je trouve que En fait, si Motombo veut une prolongation de contrat rapidement, il y a vraiment, à mon avis, de la place pour un terrain d'entente avec le Canadien parce que, mon avis, c'est le Canadien est dans une meilleure position de négociation présentement que Motombo.
C'est ça. Fait que donc, s'il va aller chercher la sécurité, il va peut-être avoir un petit peu moins, mais un petit peu plus longtemps. Ouais. Et s'il va aller chercher un peu plus d'argent, il doit être patient et peut-être se fier sur lui. Mais
c'est pas garanti.
C'est ça, une blessure, une mauvaise défensive.
Une mauvaise saison, point.
Exact. Une mauvaise saison, c'est pas trop long. Tu perds tes moyens, puis.
Ben, c'est ça. Mais c'est-à-dire, est-ce qu'il mise sur lui ou il va chercher la sécurité présentement? Mais c'est sûr qu'il peut aspirer à plus s'il négocie plus. Bon,
ben moi, je suis Canadien, j'aurais pas de trouble à lui donner avant le début de la saison 2,5 pour 3 ans.
Ben, mon Dieu Seigneur, j'ai hâte de voir. On est comme dans une série sur Netflix. J'ai hâte de voir le prochain épisode. Ça m'intrigue. OK, on va parler des remparts de Québec. Ça va à la Coupe Memorial. Et j'ai avis la pire phrase que j'ai écrite dans ce...
Ben oui, c'est bon. Hein?
Écoutez ça. Et je vais la lire intégralement, OK? Parce que je donne un plan de match à tout le monde quand on arrive pour le balado. Croyez-vous... Croyez-vous que le prochain banc que Patrick Roy coachera en sera un de la Ligue nationale?
Coacher un banc.
Ouais, c'est quand? J'ai relu, j'ai fait, mon Dieu, que ça dit pas ce que c'est supposé dire. Mais comprenez-vous ce que je veux dire? La prochaine fois que Roy coachera, est-ce que ça sera une formation de la Ligue nationale, Simon-Olivier?
Non. Je pense pas.
No.
Je sais pas, j'ai l'impression que si ça avait eu à réarriver, ça serait déjà réarrivé. Moi, je le vois pas. J'ai pas beaucoup de bonnes explications à donner, mais ça s'est pas bien fini avec l'Avalanche. Toute l'espèce d'appel du pied avec le Canadien pour devenir DG, puis en disant, mais je pourrais quand même devenir coach. Je suis pas au courant de la réputation de Patrick Roy dans la Ligue nationale, dans les cercles décisionnels, mais ouais, je le sens pas tant que ça.
OK, parfait. Alexandre?
Question est-ce que la prochaine équipe qui coacherait serait d'aller l'instant? Je pense que oui, parce que je pense pas qu'il coach de nouveau dans le junior. Je pense pas qu'il prendrait une autre job de coach que
celle... Il l'a dit, c'est sa dernière année avec les remparts.
Dans la Ligue américaine, tout ça. Non, mais ta question, c'est sa prochaine équipe. Ça serait la Ligue nationale? Si il coach encore, je pense que oui. Puis, tu sais, quand on parle de gens qui misent sur eux, Roy, c'est un petit peu ce qu'il a fait cette année quand même. Il a décidé de rester, même si la motivation sentait qu'au début de l'année, il y avait quand même certains...
L'an passé, il a dit « Je pourrais être en train de jouer au golf en Floride au lieu d'être ici avec un poulet séjour. »
Non, mais alors, le message qui passe à tout le monde dans la dernière année, c'est quoi le mot « commitment »? Engagement?
Commitment.
Non, mais regardez, moi, je suis quelqu'un que lorsqu'il s'engage...
Oui.
J'y vais à fond et j'obtiens des résultats. Il l'a démontré comme joueur. Puis là, il l'a démontré. Tu sais, comme il a gagné le trophée de Jack Adams aussi, le coach de l'année, à quelques années. Il a quitté d'ailleurs sur des raisons d'engagement. Il n'était pas d'accord avec Joe Sakic sur la gestion de certains dossiers. Il était là avec ses principes. Puis en effet, c'est sûr que la Ligue nationale, la Ligue n'aime pas ce genre d'attitude. Okay? Mais maintenant, dans la saison, il a prouvé que quand il s'engageait, il pouvait obtenir des résultats. Ça pourrait quand même inciter des équipes à lui passer des entrevues.
Et
je suis convaincu qu'en entrevue, Patrick Roy peut être convaincu.
C'est sûr. Écoutez, là, la carte de visite qu'il est en train de faire présentement, là, c'est incroyable. Là, la photo, quand vous avez vu tourner ça sur les réseaux sociaux, là, quand il joue au hockey avec la coupe Gilles Courteau.
Puis tu sais, je pense qu'une autre affaire, mais tu sais, je pense que dans son premier passage, moi, j'ai entendu des choses, notamment d'Angelo Esposito, là, tu sais, qui disait, c'était quand même quelqu'un qui était très exigeant, très, très tough. Puis je pense qu'avec les années, de ce que j'entends, puis des gens que j'ai parlé, là, qui sont dans l'entourage, tu sais, des remparts, il a changé comme coach, Patrick Roy. Moi, ce que j'entends, c'est vraiment quelqu'un qui consulte beaucoup, beaucoup les gens de son équipe. C'est quelqu'un qui est plus rassembleur, tu sais. Il peut être exigeant à ses joueurs, mais il va les défendre aussi. Fait que pour moi, je pense qu'il serait capable de revenir dans l'allée. En tout cas, moi, clairement, si j'étais directeur général, c'est sûr, je le passerai en notre
équipe. Stéphane, t'en penses quoi?
Bon, moi, je peux pas croire qu'une équipe qui veut gagner ne peut pas intéresser à Patrick Roy. Il a gagné partout comme joueur. 4 Coupes Stanley, une Coupe Calder dans la Ligue américaine, Coupe Memorials, Coupe Gilles Courteau, peut-être une deuxième Coupe Memorials dans une semaine, le Jack Adams. C'est quoi tu veux de plus? Tu veux un gagnant? C'est Patrick Roy. Et puis, je sais qu'il peut faire peur à certaines personnes, mais t'as des personnes solides dans la Ligue nationale, des GM qui sont solides. Puis ces GM-là qui sont solides n'ont sûrement pas peur de Patrick Roy. Donc, amène les meilleurs disponibles. Je sais qu'on va dire, il fait peur à beaucoup de monde. Mais c'est ceux qui font peur, c'est pas des vrais. Mais il y en a encore des vrais dans la Ligue nationale qui n'ont pas peur, qui vont engager le meilleur. Patrick Roy, Il mérite une chance. Puis Patrick Roy, je suis d'accord avec vous autres, les gars. Il a maturé depuis les dernières années. C'est pas le même Patrick Roy qui était très émotif et très...
colérique un peu.
Explosif, ouais, exactement. Explosif, qui était au Colorado ou dans le junior sa première année. C'est un gars différent. Il est pas fou, c'est un gars intelligent. Là. Le gars, il a appris. Donc, moi, là, j'y souhaite revenir, puis il devrait revenir. Il se doit être un candidat pour la plupart des postes où c'est un poste d'entraîneur-chef disponible.
Simon-Olivier, tu voulais ajouter quelque chose?
Je me questionne, est-ce qu'il serait... Si ce tour-ci, cet été ou pendant la saison morte, c'était pas son tour, est-ce qu'il se laisserait tenter par un poste d'entraîneur adjoint? Ce qui est quand même... Non, je me dis pour une équipe, on est dans la totale spéculation ici, je me dis pour une équipe qui voudrait, entre guillemets, le tester... Ben là, tout à coup, entraîneur adjoint, t'es pas devant les médias. C'est un rôle plus effacé publiquement, en tout cas. Mais t'as un peu l'occasion de voir, le revoir travailler avec des joueurs de la Ligue nationale, puis de voir si cette grande transformation.
Non, je pense que Patrick Roy, c'est all-in ou ben non, c'est rien.
Je pense plus qu'il y a une attitude de boss. Je pense pas que c'est quelqu'un qui aime avoir. Tu sais, même à Québec, il est patron ultime là, de cette organisation-là. Là, c'est quelqu'un, je pense, qui a plutôt de la difficulté. Ben, historiquement, qui a eu la difficulté avec les lignes d'autorité. Là, quand même, on peut dire ça. Je ne suis pas certain que de le mettre plus bas que le plus haut échelon de coaching dans les lignes d'autorité. Je ne suis pas sûr que ce serait une bonne idée.
Ça ne serait pas un bon service à rendre à celui qui serait l'entraîneur-chef. Ouais. D'avoir un gars avec beaucoup de prestance comme lui. Je ne vois pas Patrick. Il n'y a pas le profil d'un numéro 2 au niveau du coaching. Comme qu'il n'avait pas le profil de numéro 2 quand il jouait.
Et voilà. Clairement, moi, je dis, je répète, je pense que c'est une carte de visite qui est en train de se faire, qui est assez incroyable.
S'il gagne la Coupe Memorial,
s'il gagne, tu sais, là. Puis ça, c'est quoi? Deux défaites pour les Remparts dans les séries, là?
Ils sont en feu, là.
Deux défaites seulement.
Mais à la Testa, il est extraordinaire.
Quel joueur d'hockey, quand même.
Je le connaissais bien, là. Je l'ai vu jouer quand il était plus jeune. T'es vraiment un très bon joueur.
Saint-Louis, lui.
Ouais, puis il s'était blessé à la jambe, en fait, dans le midget. C'est pour ça qu'on l'avait un petit peu moins vu. Il me semble que c'était à la jambe. En tout cas, il avait raté une longue période. Puis lui, il se destinait à aller aux États-Unis, là. C'est pour ça qu'il a été repêché très tard, genre 6e ou 7e tour. Puis c'est Roy, personnellement, qui l'a convaincu d'aller à Québec, là. Okay. Puis au départ, c'est vraiment, tu sais, beaucoup de joueurs des Lions vont aux États-Unis, là. Ils ont ce profil-là. Ouais. Ils vont jouer dans la BCHL ou la USHL. Puis ils vont, en fait, si vous regardez la liste des Québécois dans l'NCAA, la moitié, c'est des joueurs des Lions du Lac-Saint-Louis, tu sais. Puis lui, il en a vu. Il y a des gars, Tinling, par exemple, qui sont plus vieux que lui, juste, ou la même année que lui, ou un an plus vieux que lui, Devin Levi. C'est toute la même équipe, ça, tu sais. Donc.
C'est tout le même gars qui fait ça. Erasmo Sottarelli.
Oui, mais tu sais.
Avec qui j'ai joué, by the way, en passant.
Non, mais il y avait John Goyens aussi qui était là dans le temps, tu sais. Puis, alors, oui, il réussissait à placer des joueurs. Il aurait clairement pu entrer l'NCAA. Donc, tu sais, crédit à Patrick Roy quand même d'avoir convaincu Malatesta. Là, c'était pas du tout une vente facile au départ, puis de l'avoir convaincu aller jouer là. D'ailleurs, même chose chez les Mooseheads, les deux meilleurs, ben deux des très bons joueurs qui sont Vidicek et Dumais. Ce sont aussi deux joueurs du Lac-Saint-Louis. Dumais même arrivait des États-Unis quand il a été repêché.
Ben, nous voilà bien informés. Merci beaucoup, Alexandre. Mon Dieu, c'était la chronique...
Potin.
Lac-Saint-Louis.
Lac-Saint-Louis.
Potin de Lac-Saint-Louis.
Hey, ça complète ce balado sorti zone. Gros merci, Simon-Olivier Larange. Toujours un plaisir. Ben, c'était un beau commitment que tu as eu aujourd'hui. Merci, Alexandre Pratt, merci d'avoir été là. Merci. Et Stéphane White, merci d'être revenu de la planète Mars. Bien fun de t'entendre. Merci beaucoup, Stéphane.
Hey, merci, bois. À la prochaine.
Merci. Donc, balado sorti de zone, épisode 64. C'est terminé. Prochain rendez-vous mardi prochain.
Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage. Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur. Rien ne peut vous arrêter. Ah, sauf la construction. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre Tundra 2024. Visitez achetezmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.